Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Berlin, jeune ville ancienne. Bonjour à tous et toutes. Walter Momper, maire de Berlin-Ouest quand le mur est tombé le 9 novembre 1989, écrit « Ce jour-là, nous étions le peuple le plus heureux du monde ». L'Allemagne tout entière semble se réunir dès ce soir-là quand le porte-parole du Politburo, Günther Schabowski, annonce un peu perdu que les Allemands de l'Est sont libres immédiatement de voyager à l'étranger sans motif particulier. L'annonce est comprise comme une ouverture des frontières et les Berlinois se ruent des deux côtés du mur qui coupait leur ville en deux depuis 28 ans. Deux années plus tard, Berlin redevient la capitale de l'Allemagne unifiée. Elle aura été successivement capitale d'un royaume, d'un empire, puis d'une république. Mais il y a une histoire, une sociologie de Berlin, avant et après la chute du mur. Berlin est une ville ancienne qui retrouve progressivement sa vitalité et une place de premier plan dans le concert des grandes villes européennes. Grande ville par sa superficie d'abord. Elle est plus étendue que Moscou, Londres ou Paris et elle compte 3,4 millions d'habitants. Grande ville réputée aujourd'hui pour son architecture d'avant-garde, ses musées et ses lieux de mémoire, ses loyers abordables et sa scène électro. C'est aussi une ville estudiantine qui compte 19 écoles supérieures et universités et une ville de culture avec des chiffres qui donnent le vertige. 128 musées, 250 bibliothèques et 153 théâtres. Un travailleur sur 11 est d'ailleurs actif dans le secteur de la création culturelle. C'est historiquement une ville de gauche. Son maire est le social-démocrate Michael Müller. Die Linke et le parti écologiste n'y font pas des scores notables. Sur ce plan politique, Berlin est un véritable laboratoire qui voit l'émergence de figures atypiques, par exemple les élus du parti pirate, et des expérimentations participatives importantes aussi. Des allées du Tiergarten à la porte de Brandebourg, partons pour une promenade sociologique dans le Berlin d'hier et d'aujourd'hui, en compagnie de mon invité, Pascal Laborier. Bonjour Pascal Laborier.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Pascal Laborier, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nanterre, spécialiste des politiques publiques et de ce qu'on appelle les sciences camérales, notamment en Allemagne. Vous avez dirigé le centre Marc Bloch à Berlin de 2005 à 2010. Et parmi vos nombreuses publications, je vous reçois aujourd'hui pour un livre coécrit avec Denis Boquet, qui est professeur d'architecture et d'urbanisme à Strasbourg, livre qui s'intitule Sociologie de Berlin. C'est publié à la découverte dans la collection Repères et c'est sorti en 2016. Alors Pascal Laborier, question rituelle, comment vous est venue l'envie d'écrire ce livre ?
Bah pour une fois, c'est une commande. C'est les éditions de la découverte qui m'ont proposé de réaliser cet ouvrage. Comme vous l'avez précisé, j'ai été directrice du centre Marc Bloch à Berlin pendant 6 ans. J'ai aussi fait ma thèse à Berlin et j'ai été souvent comme professeur invité dans cette ville. Et il s'agissait dans cette collection de faire une synthèse des travaux publiés sur l'Allemagne de manière interdisciplinaire, ce qui correspondait bien finalement à mon dernier poste comme directrice du centre Marc Bloch. Il me semblait que comme moi je suis en sciences politiques, il y a une dimension de la ville qui était importante, qui est celle qu'on voit d'emblée en arrivant à Berlin, qui est celle du territoire, surtout lorsqu'on vient de France et de Paris. Berlin fait 10 fois la superficie de Paris. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Denis Boquet qu'on rédige ce texte ensemble. Chacun s'est penché sur son cœur de métier, de spécialité. Et puis aussi... L'urbanisme, c'est quelque chose de visible, aussi quelque chose d'invisible. Et je me souviens que quand j'avais rencontré Denis Boquet à Berlin, il y a déjà très longtemps, une des premières discussions qu'on avait eues, c'était sur la question de la réunification après l'ouverture du mur, liée aux souterrains et notamment aux égouts. Et donc, c'est vrai que lorsque on fait de la science politique, on voit les mouvements de foule, le déplacement, les institutions... les résultats électoraux, plein de choses qui sont visibles de différentes manières, ou les institutions du pouvoir, très visibles à Berlin pour marquer les différentes époques. Et c'est vrai que la représentation de l'urbanisme, c'est une dimension extrêmement importante, donc on était, de ce point de vue, me semblait-il, assez complémentaires pour faire des revues de littérature différentes. Puis enfin, c'est une histoire d'amour avec Berlin. Moi, je suis partie la première fois habiter Berlin en septembre 89, donc j'étais là au moment des événements qu'on connaît.
Impressionnant. Alors, il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément sur Berlin si on n'est pas très familier de la ville. Et pour rester un peu dans la surface de la ville, vous le dites dans le livre, c'est une ville qui est très verte et qui est très bleue. C'est-à-dire qu'il y a un grand parc qui est le Tiergarten, qui est l'équivalent un peu de Central Park à New York. Et puis c'est une ville où il y a des cours d'eau, des étangs, et la superficie de la ville permet d'accueillir cette eau.
Oui, alors ça, c'est une présence importante. On a donné les chiffres dans le livre, c'est 7% de la superficie de la ville. Donc il y a 59 km² d'étangs, mais surtout il y a plus de 160 km de cours d'eau, il y a près de 1000 ponts. Donc c'est une présence visible même au centre-ville, puisque même dans le Tiergarten, il y a déjà des petits lacs, certes artificiels. Et donc ici, on a aussi des quartiers périphériques avec des lacs immenses à la limite frontière en fait du land d'à côté, près de Potsdam. Il y a des grappes de lacs. Quand on arrive à Tegel par l'aéroport, c'est ce qu'on voit aussi depuis l'avion. Et ici, donc, on a une ville très atypique de ce point de vue-là. Et il y a plusieurs arrondissements de Berlin qui portent des noms de lacs, en fait. Hein. Par exemple, Wannsee, le quartier de Wannsee, hein, donc c'est lié au lac, ou bien Hallensee, Nikolassee, Heiligensee, Weißensee à l'est. Bon, ça, c'est une des premières choses. Ensuite, à Berlin, s'est développée aussi toute une culture, alors là, c'est aussi ancien, de jardins ouvriers ou de projets utopiques de cités-jardins. Voilà. Et pour l'Allemagne, on retrouve des jardins ouvriers ailleurs en Allemagne, bien sûr. En chiffre absolu, c'est Berlin qui en possède le plus, hein, près de 70 000 unités. Sans doute qu'en proportion, il y a d'autres villes comme Leipzig ou Dresde qui la dépasseraient si on rapporte le nombre des jardins à sa population. Et puis enfin aussi, au début du XXe siècle, à Berlin, ont été repris les projets de Garden Cities en Angleterre, de cité idéale, avec des constructions très particulières autour de jardins, et notamment, je pense, par exemple, à la case de l'Enclotum à Zehlendorf ou d'autres quartiers périphériques où se trouvent ces jardins.
Et alors, si on reprend un peu l'histoire de la ville, vous indiquez dans l'ouvrage Pascal Laborier que c'est une ville de garnison au départ, et puis c'est une ville qui va, comme d'autres villes, gagner de la superficie, absorber les villages et les communes, et elle va aussi connaître au 19e, dans les années 1840, un processus qui ressemble un peu à l'osmanisation de percement. Voilà, donc c'est une ville qui s'est quand même étendue à la faveur d'un développement économique, de l'histoire.
Oui, en fait, il y a deux éléments. Il y a la superficie de la ville, la manière dont elle s'étend, et puis également la population. C'est une ville qui trace ses origines au Moyen-Âge, hein, on parle du XIIIe siècle comme première référence, mais c'est une ville qui émerge très tardivement, qui de fait émerge avec l'arrivée de la Prusse, et même avec la Prusse, les rois vont à Königsberg plutôt que d'être à Berlin. Donc c'est une capitale très en retard, presque un désert dans la plupart des récits, témoignages, journaux ou bien littérature. Ce qui est important, et je pense que ça peut intéresser les auditeurs de cette radio, c'est l'incroyable expansion au XVIIe, après l'édit de Nantes en 1685, puisque ici, lorsque cet édit a été proclamé, à peine 10 jours après, il y a eu un édit de tolérance par Frédéric Guillaume Ier, qui s'appelle l'édit de Potsdam. Et donc, du coup, Berlin a tout de suite accueilli une population de protestants exilés, de huguenots. Et ici, dès 1700, environ un Berlinois sur trois est d'origine protestante.
Et française.
Et française. Et du coup, ils ont des permissions professionnelles pour certains types de métiers. Donc il y a même des colonies qui se développent. La colonie de Buchholz, par exemple, est issue de cette migration. Ils importent avec eux de nouvelles techniques agricoles ou bien des soieries. Par ailleurs, et on trouve une trace aussi très visible de cette importance sur une des places presque centrales aujourd'hui, qui est la place de l'Académie du Gendarmenmarkt, quel que soit le nom historique, où on a le dôme français, le Französischer Dom. En fait, c'est un temple qui témoigne en fait de cette installation. Oui.
cette présence française très ancienne. Et puis, il y a effectivement l'idée d'un, l'image qu'on peut avoir de Berlin, c'est des grandes avenues. Ça, c'est quoi? C'est plutôt au 19e siècle qu'on percer.
Excusez-moi, oui, en fait, voilà. Donc là, c'était pour la population, pour rappeler cette histoire. Et puis, il y a différentes extensions de la population. Mais en tout cas, ici, il y a effectivement la période de rénovation de la ville, mais le point de rupture le plus important, c'est 1920, parce que là, le noyau de Berlin s'étend, inclut les arrondissements périphériques, et tout d'un coup, la superficie est multipliée par 13, d'un coup. Et ce qui est intéressant, c'est que cette transformation dans le territoire de Berlin est restée assez longtemps, puisque, en fait, une fois que ça a été développé avec ses territoires les plus proches, et ça a été aidé grâce à l'invention du réseau urbain, tous l'équivalent des trains rapides, puis effectivement les bus, les métros, etc. Avec la division et le mur.
On va en parler.
Tout de suite, voilà. Ça ne s'est pas plus développé ensuite. Donc, il y a une forme assez stabilisée du territoire de Berlin.
Oui, à partir du XXe siècle. Alors, vous l'avez mentionné, Pascal Laborier, ce qui domine là aussi l'imaginaire quand on évoque Berlin, c'est ce mur de séparation qui fait 43 kilomètres et qui traverse Berlin dans sa partie urbaine et qui va donc séparer Berlin-Ouest et Berlin-Est. Qu'est-ce qui s'est joué là, évidemment? C'est la guerre froide à une petite échelle, mais en même temps, ça a coupé une ville historique en deux.
Oui, bien sûr. Alors, on a tous des images d'archives de la construction du mur qui a été assez rapide, avec des familles séparées, des enfants, des parents, des couples, des grands-parents. Il y a également eu un blocus à Berlin qui a fait que la ville a dû être ravitaillée par avion. Et pendant longtemps, Berlin-Ouest, c'était une enclave au sein de la RDA. Il faut imaginer le territoire. Je crois que ceux qui n'ont pas vécu physiquement la séparation par le mur ne se rendent pas compte que, en fait, Berlin n'était pas accessible du reste de la RFA, République fédérale d'Allemagne, autrement que par avion ou que par train traversant la RDA. Donc c'était une île. Aujourd'hui, Berlin, on le voit, est toujours proche de l'actuelle frontière vers la Pologne. Donc c'est vraiment une ligne proche d'une autre frontière au sein de la RDA. Ça a eu aussi comme effet de séparer des institutions, d'en répliquer. C'est pour ça qu'il y a aussi tout ce tissu, vous l'avez dit, culturel important, qui a été effectivement l'œuvre de la création de la Prusse pour partie, mais aussi plusieurs institutions se sont multipliées. Par exemple, si on prend les opéras, le patrimoine historique qui a dû être reconstruit après-guerre était situé dans Berlin-Est, le cœur de la ville, et à l'ouest, donc un opéra de l'ouest a été créé. Pareil pour les universités ou d'autres endroits. Donc ça a multiplié des institutions qui ont dû être gérées après la chute du mur. Et ensuite, évidemment, se noue aussi dans cette présence physique, la présence d'un régime autoritaire qui a empêché ses citoyens de sortir. Donc on voit aussi près de l'ancien mur des mémoriaux qui sont liés justement à cette période tragique où des gens ont été tués parce qu'ils essayaient de passer de l'autre côté du mur.
Ce qui se passe à l'ouest, à ce moment-là, dans Berlin-Ouest, c'est que Berlin-Ouest se pense effectivement et est une enclave de relative liberté et qui va, les habitants vont saisir cette liberté pour lancer des contestations, lancer des mouvements culturels, jouer au fond de la distinction avec l'Est. Et là, ils s'inventent quelque chose du Berlin contemporain, c'est-à-dire cette espèce de dynamisme politique, culturel, institutionnel.
Oui, alors il y a bien sûr une part aussi de mythologie dans l'histoire de Berlin, notamment évidemment la période entre-deux-guerres où c'est Berlin la Rouge, où là il y a aussi la naissance de nombreux mouvements politiques de gauche, avec la figure notamment de Rosa Luxembourg. Mmh. Et il faut voir aussi que le Berlin-Ouest, qui est une île, est aussi un lieu qui, en raison de sa situation, par exemple, permet, lorsqu'on est inscrit à l'université, de ne pas faire son service militaire notamment. Donc, il y a aussi la possibilité là, pour de nombreux jeunes, d'être présents à Berlin, qui a un lieu aussi de rencontres d'antifascistes, de mouvements alternatifs. Et également, comme c'est une enclave, pendant tout un temps, il n'y a pas eu de bulle d'investissement urbaine en termes de rénovation, parce qu'il y avait toujours la peur que Berlin-Ouest soit définitivement annexé à la RDA.
Absorbé.
Donc il y avait une espèce d'entre-deux de Berlin, où effectivement il y avait beaucoup de squats. Il y a une partie, un encadré sur une thèse qui avait été faite à ce sujet. Et on retrouve aussi les mouvements contestataires qu'on trouve ailleurs en Allemagne, c'est-à-dire que les mouvements ne sont pas qu'à Berlin. Berlin est un poids-plume de l'échiquier politique en Allemagne. Ça n'a jamais été vraiment, jusqu'à présent, au centre. Mais ici, il y a plusieurs initiatives et lieux et d'espaces pour créer, pour essayer, pour imaginer des figures alternatives.
Ville ancrée dans le présent, mais ville ancrée aussi dans son passé. Et vous consacrez plusieurs pages, Pascal Laborie, au fait que Berlin est une ville qui a pris à bras-le-corps la question de la mémoire de l'Allemagne, de la mémoire de la Shoah. Il y a beaucoup de monuments, beaucoup de musées. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette politique mémorielle, mais qui s'inscrit aussi qui s'incarne dans des bâtiments?
Oui, alors ça, c'est aussi, il faut dire aussi que ce qui frappe à la fois ceux qui travaillent sur Berlin et ceux qui ont pu y résider, ça a été l'explosion du tourisme dans les années 2000 et les infrastructures, en même temps qu'est née une nouvelle forme de tourisme mémoriel, comme on voit par ailleurs. Mais si on compare avec ce qui se passe, par exemple, à Vienne, une autre capitale qui pourrait se saisir du passé et de son rapport à la population, au nazisme et à la destruction massive des populations juives d'Europe, c'est évident que depuis très longtemps, Berlin-Ouest et Berlin-Est ont eu chacun des politiques de réaffirmation, de réflexion sur ce passé. Donc à Berlin-Est, ça s'est passé différemment parce que l'antifascisme incluait en soi en fait la lutte contre le nazisme. À Berlin-Ouest et surtout dans la ville réunifiée, on a au cœur de la ville un immense mémorial, hein, qui est le mémorial aux Juifs d'Europe assassinés, qui est sorti de terre en 2005. Mais il faut quand même voir que c'est en plein centre-ville, 19 000 mètres carrés au centre-ville. Je sais pas, c'est comme s'il y avait, à Place du Châtelet ou à Saint-Germain, un espace aussi grand en pleine ville, près des monuments les plus importants et les plus visités. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, d'annexe. Hein. On va visiter le Tiergarten, le centre, l'avenue Unter den Linden, la porte de Brandebourg, on tombe sur ce mémorial. En même temps, il y a également un mémorial pour témoigner du massacre également, la déportation des Roms et des Sinti, également les victimes homosexuelles du nazisme. Voilà, donc là, on a toute une réflexion sur le passé et puis d'assumer ce passé. Pour les auditeurs français, un créateur comme Christophe Boltanski a aussi pu réaliser dans des espaces non reconstruits d'immeubles, dans l'ex-Berlin-Est cette fois-ci, dans la grosse Hamburgerstrasse, un témoignage sur la maison disparue avec le nom de ses habitants sur les murs. Ensuite, bien sûr, il y a le musée juif qui a été créé à Berlin, avec des parties extrêmement différentes. Et puis, il y a aussi dans toute la ville, alors ça, ce sont des initiatives différentes, hein. C'est des petits pierres, des Stolpersteine, donc on dit des pierres d'achoppement. Et ça, c'est quelque chose qui, du côté de l'Ouest, existe depuis 1993.
C'est des petites pierres gravées
Voilà, c'est-à-dire, bon, par exemple, c'est des petites pierres carrées dorées qui sont devant les maisons et chaque pierre représente, chaque petit pavé doré représente une disparition d'une famille juive d'un immeuble. Donc, au fond, c'est pour témoigner ce qui nous manque. Donc, dans le sol, par ces pierres d'achoppement, comme parfois sur certains murs de maisons avec des mémoriaux.
Et des plaques. Il y a toujours une vie juive à Berlin, Pascal Laborie, ou c'est...
Bon, alors cette vie juive a pour partie été réinventée, notamment il y a eu toutes les politiques d'immigration pour faciliter la venue au moment de la partition vers l'ouest pour faire venir... Les populations, notamment d'Europe de l'Est. Hein. Après la chute du mur, il y a eu certaines rénovations aussi, notamment la grande synagogue qui est près de Prenzlauer Berg. Mais la rénovation de la synagogue dans le centre de Berlin avait déjà été entamée par la RDA, la coupole dorée. À côté de ça, se sont développées des initiatives, quelques populations se sont réinstallées, mais bon, c'est pas une vie juive au sens où Berlin aurait retrouvé la vie juive d'avant-guerre, ça c'est complètement impossible. Après, Berlin est une ville internationale, donc plusieurs populations sont venues, d'est, d'ouest, du sud. Il y a eu également une réappropriation, par exemple, par certains aussi migrants venant d'Israël. Mais ce n'est pas une réappropriation d'une vie juive au sens traditionnel, comme on se l'imagine, avec les synagogues, la culture juive,
etc. Oui, ils n'ont pas renoué avec cette culture de la mythologie européenne.
Parce que là, c'est plutôt une culture moderne et puis mixte, puisque aussi plusieurs migrations venant des pays arabes. Donc, c'est une autre dimension.
Berlin est une ville de musique, surtout électro, mais j'ai choisi un titre un peu plus rock du groupe allemand The Not Twist, un titre qui s'appelle Kong, pour qu'on commence à pénétrer dans la nuit berlinoise. La valeur de l'homme, fréquence protestante, Berlin, jeune ville ancienne. Nous sommes en compagnie de Pascal Laborier. Voilà, on a écouté The Not Twist, un groupe allemand qui tourne depuis une vingtaine d'années et qui est très, 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 très rock. On reste sur les populations. Pascal Laborier, on a une présence turque historique importante à Berlin, pratiquement depuis les années 60. Comment est-ce qu'on l'explique ? Parce que la Turquie n'a jamais été, par exemple, une colonie allemande.
Oui, alors bon, les Turcs, c'est la première population étrangère, entre guillemets, à Berlin, d'après les statistiques. Bon, faut quand même rappeler, suivi par les Polonais et d'autres populations russes, bulgares, serbes et italiens. Alors, ici, la population migrante qui est arrivée à Berlin est arrivée dans les années 60. Donc ici, on a là une migration qui est liée tout d'abord à des accords internationaux qui ont été faits entre la RFA et la Turquie, notamment pour l'importation de main-d'œuvre, en fait. Hein, et aussi, ça, c'est sans doute une partie de la résultat de la division du mur et puis l'isolement de Berlin, hein, le manque de main-d'œuvre dans Berlin-Ouest. Donc là, ici, il y a une première phase de la migration qui est évidemment masculine, avant qu'on pense au regroupement familial plutôt dans les années 70. Donc la migration, c'est pensé comme une migration de Gastarbeiter, c'est-à-dire, en fait, de travailleurs étrangers temporaires, hein, c'est-à-dire invités, qu'on ne pensait pas qu'il y aurait une vie durable à Berlin en tout cas. Et bon, on a eu aussi des migrations ailleurs dans l'Allemagne turque. Hein. Donc ici, en fait, on a eu donc un regroupement familial dans les années 70 sans que soit levée cette hypothèque du fait que c'était des invités temporaires. Donc, c'est beaucoup plus tard que la question de l'intégration s'est posée. Bon, ça s'est posé partout en Allemagne. Hein, c'est les années 80, avec la volonté d'avoir des politiques d'intégration en termes culturels, linguistiques, et en fait aussi le développement de ce qu'on a appelé la culture multiculturelle. Hein. Bon, ça touche pas uniquement la population turque, mais également aussi.
Alors, pas de lien entre les deux, mais il se trouve que Berlin est une ville assez étrangement frappée par un chômage qui est plus important là que dans les autres villes du pays. Pour donner un chiffre, Pascal Abori, on a à Berlin en décembre 2017 8,4% de chômeurs contre 5,3% au niveau national. Et c'est un fait assez ancien, ce chômage important. Comment est-ce que on peut l'expliquer alors même qu'il s'agit d'une capitale et dont on vient de présenter tout le dynamisme?
Alors, bon, d'abord, c'est une capitale intermittente. C'est ce qu'on a essayé aussi de montrer dans le livre. Elle n'est pas capitale tout le temps. Son statut de capitale est toujours contesté. Et notamment, l'installation de la bourgeoisie est assez tardive, en fait, et des investissements dans Berlin. Donc, il y a eu aussi une explosion industrielle extrêmement rapide, hein, sur... puisque si on suit l'augmentation de la population, c'est aussi une ville qui a eu un développement brutal en termes de population. Donc ça a des impacts sur le développement de la ville elle-même. Il y a eu des entreprises historiques qui se sont installées dans la ville. Et une partie de la ville porte la trace de cette industrialisation, puisque c'est... Siemensstadt, la ville de Siemens, hein, donc c'est l'entreprise Siemens qui est un quartier en soi qui a été créé à la fin du 19e avec 30 000 ouvriers employés sur le site dès le début du 20e et des logements ouvriers alentour. Mais en tout cas, il y a eu évidemment à différentes périodes, hein, puisqu'il y a eu la guerre, la partition. Donc la partition fait aussi que Berlin a été coupé pour l'Ouest de son environnement proche. Et d'ailleurs, on pourrait aussi voir, pour les chiffres que vous avez situés, le chômage à Berlin et aux alentours, puisque là, du coup, on ne prend pas la périphérie qui, elle, peut se développer. Et pareil avec la partie est de la ville, avec des cités industrielles ailleurs en RDA. Donc, il y a une forme d'effondrement de l'héritage industriel dans les années 80, sans grand développement à cette époque, avec maintenant, depuis la réunification, une mutation de l'activité, notamment tertiaire. Alors, pour le chômage est lié aussi à ces différentes mutations et au type d'emploi. Voilà. Et on a ici... la difficulté de l'accès à des populations qui ont été évincées de différents types de formations, parce que vous citez le chômage, mais également toutes les politiques de Hartz-IV de la pauvreté ont très fortement impacté Berlin. On donne des chiffres sur un quart de la population qui est redevable de ces subventions sociales, tributaire de ces subventions sociales, et notamment beaucoup d'enfants qui sont dans une grande pauvreté.
Et une population aussi un peu âgée. Cette émission s'achève. Merci beaucoup, Pascal Laborier, d'être venu dans les studios de Fréquence Protestante. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est coécrit avec Denis Boquet, Sociologie de Berlin, aux éditions La Découverte. Merci à Léo à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.